Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition spéciale du 7 janvier 2021 sur les États-Unis. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le Congrès américain a finalement validé la victoire de Joe Biden à la présidentielle après une journée chaotique à Washington. Les violences qui ont fait 4 morts et une cinquantaine d'arrestations ont suscité de nombreuses réactions dans le monde. Les démocrates se dirigent vers le contrôle des deux chambres après 2 victoires au sénatorial partiel en Géorgie. Du Congrès américain ont finalement confirmé la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre ce jeudi matin. Ils ont repris tard dans la soirée de mercredi le dépouillement des votes du collège électoral. Les législateurs démocrates et républicains se sont montrés déterminés quelques heures après que des milliers de partisans du président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Un reportage de Patsy Widakuswara avec le récit d'Abdourahman Dia.
Malgré l'invasion du Congrès par des milliers de partisans de Donald Trump, les législateurs sont retournés au travail mercredi soir pour compter et certifier les votes des collèges électoraux. Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat.
Nous avons certifié le vainqueur de la présidentielle de 2020.
Le vice-président Mike Pence, en sa qualité de président du Sénat, a convoqué à nouveau la session conjointe du Congrès quelques heures après l'évacuation du bâtiment assiégé.
Aujourd'hui était un jour sombre dans l'histoire du Capitole des États-Unis, mais grâce aux efforts rapides de la police du Capitole, des forces de l'ordre fédéral, étatique et local, la situation a été contrôlée.
Plus d'une centaine de membres de la Chambre et 14 sénateurs, tous républicains, avaient initialement prévu de bloquer la certification des votes dans 6 États remportés par Joe Biden. Le sénateur républicain Josh Hawley.
Pour ceux qui s'inquiètent de l'intégrité de nos élections, ceux qui s'inquiètent de ce qui s'est passé en novembre, c'est le moyen approprié.
Mais plusieurs d'entre eux ont changé d'avis suite aux violences d'hier. La sénatrice républicaine Kelly Loeffler.
Les événements qui se sont produits aujourd'hui m'ont obligée à reconsidérer. Je ne peux pas maintenant, en bonne conscience, m'opposer à l'accréditation de ces électeurs.
De Wilmington, Biden a condamné la violence et sévèrement critiqué Trump.
J'appelle le président Trump à aller à la télévision nationale maintenant. Pour remplir son serment, défendre la Constitution et exiger la fin de ce siège.
Le président Trump a tweeté une vidéo appelant au calme, mais a maintenu ses accusations de fraude.
C'était une victoire écrasante et tout le monde le sait, en particulier l'autre camp. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant.
Twitter et Facebook ont pour la première fois bloqué les comptes de Trump.
C'était une scène apocalyptique que les Américains n'ont jamais vue dans leur propre pays. Des manifestants en colère ont envahi mercredi le Capitole, le Parlement américain, grand symbole de la démocratie. Selon le chef de la police, 4 personnes ont été tuées, dont une femme. Un reportage de Michel Quinn, le récit est de Lionel Gaïma.
C'était comme un cauchemar avec des scènes inimaginables. Une parlementaire américaine accroupie et priant derrière une chaise à l'intérieur du temple de la démocratie américaine. Des policiers brandissant des armes à feu au sein du Capitole. Des vitres brisées et des manifestants escalant les murs pour aller saccager les bureaux des élus. C'est du jamais vu aux États-Unis. Les images ont tourné en boucle dans toutes les télévisions du monde et sur les réseaux sociaux. Cela a commencé par une manifestation pacifique mercredi à l'appel du président Donald Trump pour contester les résultats de la présidentielle. À quelques encablures, une session conjointe du Congrès devait commencer le processus de certification des résultats.
Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais. Ça n'arrive pas. Vous ne concédez pas face à un vol.
Trump a suggéré ses partisans de marcher vers le Capitole. Alors que la foule s'approchait du bâtiment, elle s'est heurtée à la police. Après quelques échauffourées, les manifestants ont pénétré de force dans le bâtiment et les législateurs ont dû se cacher. Voir des manifestants dans les villes américaines n'est pas rare. L'été dernier, des manifs se sont parfois transformés en batailles rangées avec des destructions. Mais ce qui s'est passé mercredi à Washington DC est bien différent. Liam Donovan, stratège républicain.
Ce qui n'a jamais été vu, c'est que des individus prennent d'assaut le Capitole, brisent des fenêtres, fassent irruption dans des bureaux. C'est choquant à voir.
À la tombée de la nuit, la ville de Washington et l'État de Virginie voisine ont été obligés d'imposer un couvre-feu nocturne. Une nation choquée s'efforce de comprendre ce qui a pu conduire à ce moment sans précédent. Jennifer Masieka est professeure agrégée à Texas A&M.
Nous ne savons pas comment ça va se terminer. En regardant le chaos à Washington DC en ce moment, il est difficile de savoir qui est vraiment en charge.
Le Congrès, théâtre de tant d'événements historiques, a pu reprendre sa session dans la soirée. Plusieurs sénateurs républicains qui envisageaient de lever les objections ont dû abandonner leur projet. Le vice-président Mike Pence, qui présidait la séance, a dit clairement « Vous n'avez pas gagné, on ne gagne jamais avec la violence ». Joe Biden est maintenant déclaré officiellement vainqueur de la présidentielle et doit prêter serment le 20 janvier.
Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat américain en plus de la Chambre des représentants après avoir remporté 2 victoires lors du second tour des sénatoriales partielles en Géorgie. Depuis Atlanta, Catherine Gibson de La Voix de l'Amérique revient sur les conséquences de cette course pour la présidence de Joe Biden. Le récit est de John Linden.
Les électeurs de Géorgie ont donné le contrôle du Sénat américain aux démocrates. Avec la défaite de la candidate républicaine Kelly Loeffler, le démocrate Raphaël Warnock deviendra le premier sénateur noir de l'État de Géorgie.
Le voyage improbable qui m'a conduit à cet endroit en ce moment historique en Amérique ne pouvait se produire qu'ici.
Et l'autre candidat démocrate, John Ossoff, a battu le sénateur républicain David Perdue.
Let's unite now.
Unissons-nous maintenant pour vaincre ce virus et accélérer les aides économiques au peuple de notre État et au peuple américain.
Cet État du Sud est traditionnellement républicain a connu un taux de participation sans précédent au second tour de cette élection. Les allégations de fraude électorale du président Trump dans cet État pourraient être l'un des facteurs qui ont contribué à ces changements.
Vous ne concédez pas en cas de vol.
De nombreux partisans du président sont venus voter ici en Géorgie en disant que l'élection était trop importante pour être ratée. Mark Hayes, partisan de Trump.
Nous n'avons pas obtenu notre liberté en laissant d'autres personnes entrer et diriger ce pays comme les démocrates veulent le faire.
Les affirmations du président semblent avoir diminué la participation républicaine, selon les analystes. Hank Edmondson, professeur à Georgia College.
Le président a semé une grande confusion dans l'État avec ses accusations de processus frauduleux ici. Et il y a eu une crainte parmi les républicains pendant un certain temps que cela pourrait affaiblir le taux de participation des républicains.
La vice-présidente élue Kamala Harris aura le vote décisif dans un Sénat dirigé par le futur leader de la majorité, Chuck Schumer.
Nous allons relancer l'Amérique.
Cela marque un changement crucial pour le président élu Biden, ouvrant des opportunités de partenariat avec le Congrès pour adopter son agenda au cours de ses 2 premières années de mandat. Fred Hicks, stratège politique.
Le leader de la majorité au Sénat est vraiment la personne la plus importante au Congrès. Rien ne va de l'avant sans le leader de la majorité au Sénat. Et nous l'avons vu avec Mitch McConnell.
Le président élu Joe Biden entrera en fonction soutenu par des majorités démocrates à la Chambre et au Sénat. C'est la première fois que le parti va contrôler les 2 chambres depuis le premier mandat de Barack Obama.
Après l'intrusion de force mercredi de centaines de partisans de Donald Trump dans le Capitole, les agents de sécurité ont dû empiler des meubles contre la porte de la salle et sortir leurs armes afin de permettre aux représentants et à d'autres personnes de s'échapper. Cet assaut suscite des questionnements sur la sécurité d'une telle institution. Eric Manirakiza a joint ici à Washington le journaliste indépendant Émile Baroudi.
L'entrée au Capitole est très strictement contrôlée par la force de police du Capitole. Le Capitole a une force de police qui lui est propre et ce sont des policiers qui s'occupent de la sécurité du bâtiment lui-même, des bâtiments dirais-je, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, il y a les bureaux des sénateurs et des représentants et tout. L'accès est très strictement contrôlé du point de vue sécuritaire. Il y a des portails électroniques, on se fait fouiller. Mais il y a une chose que les Américains aussi aiment beaucoup profiter du premier amendement de la Constitution qui garantit le droit d'expression, qui fait que pour la police du Capitole, ces gens-là n'étaient pas illégalement présents dans le bâtiment, ils étaient légalement là-bas, ils avaient le droit d'être là-bas, ils ont le droit de manifester. Donc est-ce que c'était une bavure comme il peut en arriver? Est-ce que quelqu'un en a profité pour, au contraire, les laisser rentrer et faire tous ces dégâts pour discréditer leur ligne politique et le président? Ce n'est pas encore très clair.
Y aurait-il eu une défaillance au niveau de la sécurité ou la police aurait été débordée face à une situation non anticipée à cause de la foule qui a forcé l'entrée?
Je ne sais pas si la foule a forcé l'entrée, mais il est évident qu'il y a eu des points là où il y avait les barrières métalliques qui ont été débordées, c'est vrai. Mais pour paraphraser Gustave Le Bon, le père de la sociologie moderne, dans la foule, ce ne sont pas les intelligences des individus qui s'additionnent, mais leurs bêtises. On oublie qui on est, on oublie que nous sommes des gens raisonnables et pense, on se laisse aller dans la foule, on redevient cet être primaire, on crie, on gueule, on fait ce qu'on veut parce qu'on a l'anonymat de la foule. Mais il y a eu sûrement quelque chose qui allait mal hier et ce débordement a eu des résultats assez importants et je crois que ça aura aussi des répercussions aussi importantes.
Justement, quelles seraient les implications éventuelles?
Je suppose que ce qui est arrivé hier va donner à penser à beaucoup de gens que finalement il faut légiférer, il faut faire de façon à ce que cette liberté d'expression tant chérie par l'Amérique a besoin de limites, a besoin d'un cadre assez strict pour être exercé. Il y a des limites qu'on doit mettre à ce débordement. Les Américains sont tout le temps, ils crient haut et fort leurs droits et leurs libertés et tout, mais ils ne s'aperçoivent pas que très souvent, ça touche le droit des autres, ça touche la liberté des autres et ça devrait se faire d'une façon légale, de par une loi qui va mettre vraiment les règles de comment manifester au Congrès.
Émile Baroudi est journaliste indépendant à Washington. Au Ghana, l'armée est intervenue au sein du Parlement la nuit dernière pour arrêter les bagarres entre députés du pouvoir et de l'opposition qui ont finalement boycotté la cérémonie d'investiture du président Nana Akufo-Addo ce jeudi après-midi. Divisés de manière quasi égale entre les deux partis principaux, les députés ont élu un membre de l'opposition comme représentant. Alban Bagbin du NDC a été élu avec 138 voix contre 136. L'armée est intervenue pour rétablir le calme après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de voler les bulletins de vote. Dans l'ouest du Niger, ce sont 105 civils qui ont été tués dans l'attaque djihadiste samedi, selon un nouveau bilan du HCR. L'attaque de deux villages par des hommes armés a fait 32 morts à Zaroumadari et 73 à Tchoumabangou, ainsi que 26 blessés par balles et des centaines de greniers ont été incendiés, a déclaré Jean-Sébastien Josset, porte-parole de l'agence onusienne à Niamey, soulignant que plus de 10 000 personnes ont fui leur village. En Centrafrique, la présidence a annoncé ce jeudi un couvre-feu de 20h à 5h. Une coalition de 6 mouvements avait lancé une offensive avant la présidentielle du 27 décembre et la moitié des électeurs inscrits n'ont pas pu se rendre aux urnes à cause de l'insécurité. La progression des rebelles a été bloquée loin de Bangui, mais la tension persiste depuis que le président Faustin Archange Touadéra a été réélu au terme d'une élection contestée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les événements de mercredi ici à Washington, au Capitole, ne sont pas vraiment une surprise pour certains observateurs. Bagassi Koura a joint à Houston dans le Texas l'analyste politique Aristide Sidibé.
Moi, je n'étais pas surpris, pour vous dire la vérité, parce que si vous regardez la manière dont le président Trump a pris le pouvoir aux États-Unis et sa relation avec son parti politique. Et il est arrivé à un moment donné où le fait que l'élection ne s'est pas passée comme il le veut, il n'a pas gagné. Il a dit ça depuis longtemps qu'il ne va pas reconnaître les résultats. Il a dit qu'il a été triché. Et la politique, c'est un sport de contact. Et ses partisans ne veulent pas reconnaître la légitimité que le nouveau président Joe Biden a été élu légitimement. Donc ça, c'est la conséquence directe de ce qui se passe. Et du fait que aussi, au sein de son parti, il y a des gens qui sont prêtés à ce jeu.
À votre avis, quel peut être l'effet sur la démocratie américaine?
Pour moi, ça, c'est la question la plus importante. Donc moi, je vois deux conséquences. Une conséquence interne et une conséquence externe. La conséquence par rapport à la politique intérieure des États-Unis, c'est que, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a des politiciens au sein du parti de M. Trump qui veulent émuler ce qu'il a fait. Ils pensent que c'est le modèle pour être président. Et l'État dans lequel moi je vis, le Texas, l'un de nos sénateurs Ted Cruz, est dans cette logique. Okay? Donc, la question qu'on doit se poser, c'est que s'il n'y a pas un prix à ce genre de comportement, d'autres politiciens vont le faire. Ils vont penser que c'est la manière pour accéder au pouvoir. Maintenant, la conséquence externe, c'est que l'Amérique ne peut plus se permettre de donner des leçons au reste du monde en ce qui concerne la démocratie. Et en anglais, on appelle ça, souvent les gens disent ça, the moral authority, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'ascendant moral sur les autres? Oui, pour dire aux autres, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Donc pour moi, ça, c'est les deux conséquences.
Donc il va être difficile, par exemple, d'accompagner ou de réagir à des processus électoraux en Afrique?
Absolument. Et je prends l'exemple de mon pays d'origine, qui est le Mali. Est-ce que l'Amérique aujourd'hui peut dire aux autorités transitoires au Mali, vous devez vous comporter comme ça? Moi, je me pose la question. Ce sera difficile. C'est parce qu'aujourd'hui, la puissance américaine, en réalité, ce n'est pas seulement la puissance économique, ce n'est pas seulement la puissance militaire, mais là, c'est la puissance de son système démocratique. C'est ce qui fait l'envie du reste du monde. Donc, si l'Amérique perd cela, ça va être difficile pour l'Amérique de se positionner pour être l'exemple de démocratie au monde.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réaction d'indignation également au Cameroun au lendemain des violences au Congrès américain. Pour de nombreux Camerounais, l'invasion du Congrès américain par des sympathisants du président sortant Donald Trump est une atteinte grave à la démocratie et à l'image des États-Unis. Des réactions recueillies par notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Dans les rues de la capitale camerounaise, l'invasion du Congrès américain par les partisans de Donald Trump est vivement condamnée.
Ça salit l'image des États-Unis, mais tout ce que Dieu fait, bon, plus que les États-Unis sont en train de chuter. Regardez ce que le président sortant en train de faire. Les actes qu'il est en train de poser, c'est médiocre.
Avec ce que j'ai vu, bon, ça m'a fait avoir la chair de poule. Parce que moi, je trouvais des blancs comme des modèles. Moi, je ne pourrais plus imaginer que ces choses pourraient arriver à leur niveau.
Les scènes vécues mercredi à Washington laissent aussi certains Camerounais interrogateur sur la solidité de la démocratie aux États-Unis sur leur trône.
Pour moi, c'est honteux de voir une grande nation comme les États-Unis voir un tel truc qui se passe en mondovision. Franchement, c'est pas bon pour le monde.
Très surpris d'ailleurs qu'un donneur de leçons ne fasse pas exemple de sa propre leçon. Et eux qui ont toujours montré l'exemple de la meilleure démocratie dans le monde, qui se retrouvent face à une situation pareille et aux yeux du monde, on se rend compte que nul n'est vulnérable, quel que soit le domaine, que ce soit la politique ou alors dans le monde des affaires ou quoi que ce soit, sachant tous qu'on est des hommes. Donc du coup, on ne peut pas se donner exemple sur quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas sûr qu'on est vraiment dans ce domaine. Donc c'est l'avis que je peux donner. Je suis très surpris de voir que c'est aux États-Unis que ça commence par...
Le président Donald Trump n'est pas exempt des critiques. Son image est désormais écornée, selon certains Camerounais.
Cet monsieur, c'est une honte pour la démocratie dans le monde, parce que c'est là-bas que nous prenons souvent les bons exemples. Mais quand un président comme celui-là, dans l'urne, il a été battu dans l'urne, mais c'est malheureux.
Je ne peux pas peut-être accuser Donald Trump, parce que je ne sais réellement pas la base du problème. Mais si on entre dans le sens propre, bon, ça c'est être ridicule à un moment donné, vu la puissance des Américains.
Armand Parfentia est diplomate et géostratège. Il pense que l'attitude des partisans de Trump contre le Congrès américain est anti-républicain.
Un véritable coup d'État contre la démocratie, bien évidemment. Il faut rappeler que le Capitole est le siège du Congrès, c'est-à-dire des deux chambres parlementaires, la Chambre des représentants et le Sénat. C'est un lieu symbole de la démocratie, la maison du peuple. En outre, il est utile de relever que cette session parlementaire anecdotique, conjointe de certification des élections, n'a en aucun cas connu de tels débordements. Il y a eu des atteintes aux emblèmes du pouvoir législatif et de la démocratie.
Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
La presse africaine commente largement les derniers événements survenus ici à Washington. Au Sénégal, on a le sentiment d'un mythe des États-Unis qui est tombé. Yacouba Ouédraogo a joint Mamadou Kassé, journaliste à Immedia Invest Group à Dakar.
Cette invasion du Capitole par des militants pro-Trump a surpris beaucoup de monde, y compris ici au Sénégal. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment la stupéfaction la plus totale, parce que déjà, l'idée qu'on s'est faite des États-Unis, c'est qu'ils sont la première démocratie au monde. Donc, voir ces scènes vraiment qui font honte à la démocratie a surpris beaucoup, y compris moi-même qui fais une émission sur la géopolitique, les relations internationales.
Vous le disiez tout à l'heure, l'idée hein, que les gens se font des États-Unis, c'est que c'est un pays démocratique où oui, les absolument. Lois sont respectées. Est-ce que vous pensez que désormais le regard sur les États-Unis va changer?
Absolument, parce que personne n'aurait pu penser qu'un jour de telles scènes se produiraient dans une institution aussi représentative qu'est le Capitole, le Congrès, qui est quand même la Chambre des représentants, je peux dire le chantre même de la démocratie américaine. puisque voir des manifestants entrer jusque dans des bureaux des élus, ça donne quand même une idée autre de la perception des gens de la démocratie américaine. Et je peux dire que c'est la démocratie américaine qui a en réalité pris un énorme coup, un coup vraiment chaotique. Et cela ne la fait pas grandir, en tout cas dans la face du monde.
On le sait, les gens présentent souvent les États-Unis comme étant les gendarmes du monde, les donneurs de leçons en matière de démocratie. Ça ne sera plus le cas?
Pas totalement. Il y a certains qui auront toujours cette idée quand même bonne, en tout cas de l'image des États-Unis. D'autres, par contre, vont se faire une nouvelle idée comme quoi les États-Unis sont un pays normal en réalité. Ces images-là ont montré qu'en réalité, Donald Trump jouit toujours d'une certaine popularité, même si aujourd'hui, beaucoup de personnes au sein de son camp donc décrit sa manière de procéder parce qu'il a clairement appelé à l'insurrection, à l'invasion. Donc ça c'est quelque chose qui ne peut être cautionné. Et cela atteint donc la démocratie américaine. Parce que la démocratie américaine, quoi qu'on dise, a quand même inspiré beaucoup de pays à travers le monde. Quoi qu'on dise, les États-Unis ont toujours eu quand même des passations pacifiques du pouvoir.
On entend souvent des dirigeants sur le continent africain notamment, et j'ai en mémoire le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, parler d'une démocratie à l'africaine, comme quoi la démocratie ne peut pas se concevoir en Afrique comme elle se fait ailleurs. Est-ce que vous pensez que cette scène va les conforter dans leur position?
Forcément, parce que lui, déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tripatouillé la Constitution à Alassane Ouattara pour pouvoir se présenter à un troisième mandat. Je peux dire que cela va peut-être le conforter dans sa position, vu que ça l'arrange. Mais par contre, les observateurs africains, les jeunes leaders, en tout cas, les gens qui se font une idée noble de la politique ne peuvent pas apprécier ce genre de scène très, 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 très quand même grave, puisque ce qu'on a vu hier au Capitole, c'était vraiment scandaleux.
Mame Abdou Kassé était joint à Dakar. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis prennent des mesures pour empêcher le régime cubain d'exploiter financièrement son peuple et d'utiliser les fonds pour soutenir le gouvernement illégitime du Vénézuélien Nicolas Maduro. Le gouvernement du pays utilise deux méthodes particulièrement hideuses pour mettre la main sur les devises fortes. Elle détourne des envois des fonds, des cadeaux monétaires des parents et d'amis vivant à l'extérieur de Cuba à ses propres citoyens. Cuba est le seul pays de l'hémisphère où l'armée s'arroge une part des fonds envoyés, a déclaré le secrétaire adjoint par intérim aux affaires de l'hémisphère occidental, Michael Kozak, lors d'une séance d'information spéciale récemment tenue sur les préoccupations en matière de droits de l'homme à Cuba. L'armée cubaine saisit des devises à ses propres fins, les utilisant pour financer son ingérence au Venezuela et soutenir ses propres entreprises défaillantes. Ils prennent également leur part et forcent les Cubains à utiliser ce qui reste des fonds d'envoi reçus pour n'acheter des marchandises qu'à des prix nettement élevés dans les magasins contrôlés par le régime. Pour mettre fin à cette pratique, les États-Unis ont empêché les forces armées cubaines de manipuler le traitement des envois de fonds. Dans le même temps, les États-Unis permettent les envois de fonds par des voies privées et civiles. Les États-Unis sensibilisent également la communauté internationale à la deuxième méthode utilisée par le gouvernement Castro pour obtenir des devises fortes par le biais d'abus de professionnels de la santé participant aux missions médicales cubaines à l'étranger. Il s'agit d'une entreprise à but lucratif qui est la première source des revenus pour le régime Castro, a déclaré l'ambassadeur Kozak. Le régime prive son propre personnel médical de jusqu'à 90% de leur salaire que les médecins gagnent mais ne voient jamais. Les États-Unis s'efforcent de protéger les médecins tout en coupant ses recettes au régime. Les pays qui accueillent des travailleurs cubains devraient déposer directement leurs salaires des professionnels dans leur propre compte bancaire personnel au lieu de remplir les coffres du régime. Et certains pays ont démontré que cela peut être fait malgré la résistance du régime, a déclaré le secrétaire adjoint par intérim COSAC. Nous nous sommes concentrés sur le fait de priver le régime Castro des ressources qu'il utilise pour financer sa répression à Cuba et son ingérence au Venezuela. Et nous l'avons fait par le biais des sanctions ciblées contre l'armée cubaine, la sécurité et les institutions de renseignement, a-t-il déclaré. Nous visons à renforcer la société civile et le secteur privé cubain, mais pas le régime répressif cubain.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.